Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ECHO, un podcast du Centre d'études stratégiques de la Marine. Le savoir-faire des tacticiens est particulier. Ils bâtissent des modes d'action dans un milieu beaucoup plus hostile qu'un désert torride car ils y affrontent un ennemi maléfique et incertain. Par ces mots, l'amiral Tripier ne saurait mieux décrire le rôle clé des tacticiens en temps de guerre, un facteur déterminant que détaillent et étoffent les commandants Laverne et Cormand dans leur livre « Vaincre en mer au XXIe siècle, la tactique au 5e âge du combat naval ». Alors justement, comment la tactique navale prend forme sur le théâtre d'opération? Quels sont les différents paramètres que les tacticiens doivent prendre en compte? Et comment le leadership impacte-t-il le succès des opérations? En un mot, finalement, comment vaincre en mer au XXIe siècle? Pour son dernier épisode consacré au sujet, le CESM a une dernière fois le plaisir de recevoir le capitaine de vaisseau Thibault Laverne, commandant second du porte-avions Charles de Gaulle. Je rappelle aussi que vous êtes co-auteur du livre « Vaincre en mer au XXIe siècle, la tactique au 5e âge du combat naval ». Bonjour commandant et bienvenue dans ECHO.
Bonjour lieutenant.
Alors commandant, dans le dernier épisode, on a parlé des tendances de la tactique navale, mais là on va s'intéresser à la mise en application concrète sur le terrain. Déjà un peu pour poser le contexte, comment se passe l'élaboration d'une tactique navale?
Alors là, on rentre dans le champ de la science militaire que j'ai essayé de vous résumer de manière tout à fait accessible pour nos auditeurs. Alors, dans le jargon, c'est ce qu'on appelle la planification. Voilà. Planifier une action, vous avez une mission et derrière, vous allez élaborer une tactique qui est en fait le produit de sortie d'un cycle de planification qui peut se faire en 3 jours ou en 3 heures. Tout dépend du temps que vous avez. Avant de vous dire comment ça se passe, ce qui est important, me semble-t-il, c'est d'insister sur l'état d'esprit dans lequel on doit entrer pour planifier. C'est un état d'esprit qui suppose plusieurs choses. La première, c'est toujours créditer votre adversaire d'un bon jugement. Historiquement, de nombreux échecs viennent du fait qu'on a sous-estimé l'ennemi. Et donc, toujours partir du fait qu'en face, l'ennemi va utiliser ses moyens de la manière la plus efficace possible avec un bon jugement. Deuxième point sur l'état d'esprit, c'est toujours de se poser la qualité des informations qu'on utilise. Quand on va planifier, on va ramasser beaucoup de renseignements, notamment sur l'adversaire. Et donc là, toujours avoir un regard critique sur quel est le degré de véracité de ce que je manipule. Autre point d'état d'esprit, c'est d'être toujours capable de restituer l'action tactique qu'on va mener dans un ensemble plus large.
Dans la stratégie finalement.
Dans la stratégie, dans le niveau opératif, de se dire « mais pourquoi je fais tout ça ?» Et ça, c'est un excellent garde-fou pour éviter de glisser de ce qu'on appelle le « mission creep » en anglais, c'est-à-dire le glissement de mission. Et puis un dernier point, c'est lorsque le temps le permet, arriver à avoir des approches un peu latérales, des avis différents de gens qui n'ont rien à voir avec ce que vous faites sur la tactique que vous élaborez. Ça vous permettra d'éviter les angles morts. Voilà, donc ça, c'est l'état d'esprit. Une fois qu'on a dit ça, la tactique, l'élaboration, ça se passe en 3 temps. Un premier temps, qui est toujours le même, qui consiste à apprécier la situation. Voilà. C'est le fameux « de quoi s'agit-il » que l'on prête parfois à Foch. Et donc cette appréciation de situation, ça va vous amener à vous dire « ok, voilà ce que je dois faire, voilà pourquoi je dois le faire, et voilà dans quelles conditions je veux le faire ». Et ça, c'est le préalable ensuite à créer des options. Donc cette appréciation de situation, globalement, elle repose sur quelques piliers. Le premier pilier, c'est l'analyse de la mission. Hein, on le dit souvent, la mission est sacrée. En fait, c'est très vrai, c'est pas qu'une image. C'est-à-dire que votre mission, c'est elle que vous allez malaxer, que vous allez retourner dans tous les sens en vous disant « mais finalement, pourquoi est-ce qu'on me demande ça ?» Et quand vous avez compris pourquoi vous devez faire telle action de bombardement, en fait, ça, vous le perdrez jamais des yeux. Pourquoi ? Parce que ça va vous dicter le comment faire derrière. Et donc là, vous allez avoir toute une série de questions que vous allez ruminer sur la typologie de votre mission, l'effet principal de votre mission, pourquoi on vous demande ça, est-ce que c'est un objectif mineur, un objectif majeur.
D'où l'importance d'avoir le bon état d'esprit aussi.
Exactement, oui, bon état d'esprit et surtout d'avoir les bonnes connexions avec vos chefs, puisque c'est de eux que vient la mission. Et si la mission n'est pas clairement comprise, mais ça on y reviendra dans le mission command ensuite, vous avez des difficultés. Donc cette mission, globalement, vous allez la malaxer et la voir sous les yeux en permanence. Autre question que vous allez vous poser dans la pression de situation, c'est votre environnement. Donc évidemment, ce que vous faites, ça se passe dans un environnement physique, dans un environnement également immatériel. Et donc là, vous avez toute une phase qui va consister à prendre tous les facteurs espace-temps et regarder finalement dans quoi vous allez vous mouvoir. Alors, dans le champ maritime, il y a des choses qui reviennent tout le temps. La géographie, l'hydrographie, l'océanographie, la météorologie, ça c'est vraiment les données de base. Ça c'est les données de la nature. Mais vous allez également y rajouter les données humaines, donc tout ce qui vient de l'homme, donc les infrastructures, le côté économique, le côté militaire, le côté relations internationales, le côté politique. Tout ça, vous allez le mettre dans la balance dès l'instant où la tactique est concernée. Voilà. Donc selon le niveau auquel vous planifiez, forcément quand vous êtes au niveau tactique, il y a des facteurs politiques qui ne vont pas vous intéresser, qui vont plutôt intéresser le stratégique. Voilà. Donc c'est ça que vous allez faire.
Et ensuite, après l'analyse de l'environnement, il y a l'analyse des risques.
Alors, les risques, ça va venir un petit peu après, en fait. Vous allez voir, ça va venir quand on va commencer à échafauder nos modes d'action. Pour l'instant, j'ai absolument pas parlé de modes d'action ou de tactique. C'est juste l'environnement. Tout ça, vous le mettez sur une carte. Une fois que vous avez fait tout ça, après, vous allez regarder les forces en présence. Donc là, vous allez commencer par mesurer un peu les boxeurs sur le ring, et en vous disant, OK, finalement, quels sont les atouts de part et d'autre. Donc là, vous allez commencer à prendre votre ennemi, ou vos ennemis, ça dépend, ce qu'on appelle les menaces, et vous allez commencer à les caractériser. Les caractériser de manière intrinsèque, voilà, quelles sont leurs capacités statiques, dynamiques. Là, vous allez mobiliser énormément de renseignements. Donc, ce qui fait que vous êtes bon, c'est parce que vous avez dans vos armoires du renseignement sur celui d'en face, et on ne se met pas à se renseigner le jour où on se dit, tiens, qu'on va faire quelque chose. Et puis après, vous allez comparer tout ça à vous. Et là, c'est vraiment le cœur de cette étape d'appréciation de situation, c'est de vous dire finalement, est-ce que je suis le fort, est-ce que je suis le faible, quels sont mes avantages comparatifs, quelles sont les choses sur lesquelles je vais pouvoir appuyer. Donc là, vous avez des domaines, le leadership, l'entraînement, le moral, les capacités, l'endurance, la résilience, tout ça, vous allez le comparer dans ce qu'on appelle la balance des potentiels. Voilà, ça c'est un terme très militaire aussi. Et donc à la fin, vous allez vous dire, OK, voilà comment on se situe sur les différents curseurs. Il y a aussi un produit de sortie de cette phase-là, qui est assez intéressant, qui fascine toujours l'étudiant en sciences militaires, mais qui en fait est fondamental, c'est ce qu'on appelle le fameux centre de gravité. Voilà. C'est quoi le centre de gravité ? Au niveau tactique, c'est la chose, l'aptitude, le système, la personne duquel votre adversaire ou l'acteur tire sa force. Voilà. Donc ça peut paraître un peu abscons pour nos auditeurs, je vais donner quelques exemples. Ça peut être un système, par exemple le système de défense en profondeur d'un port militaire, ça peut être un centre de gravité ennemi au niveau tactique. Et si vous arrivez à faire tomber ce système de défense en profondeur, vous avez remporté la partie. Alors, ça peut être une personne, par exemple. Les Japonais, lorsqu'ils perdent Yamamoto, beaucoup disent qu'au niveau opératif ou stratégique, en fait, ils ont perdu leur centre de gravité en 1943. Pareil pour Wagner, quand il perd Prigogine, Wagner tombe. Donc Prigogine était le personnage centre de gravité de Wagner. Et puis quand vous prenez au niveau tactique la mer Noire, moi je pense, mais ça peut être débattu, que dans toute la première partie de la guerre en mer Noire, dans la partie nord-ouest, dans le golfe d'Odessa, un des centres de gravité tactique des Russes, c'était le Moskva. Et dès l'instant où le Moskva, le croiseur amiral, est coulé, tout d'un coup, quasiment immédiatement, vous avez le golfe d'Odessa qui s'ouvre. Et après c'est l'île au serpent qui va tomber, qui s'ouvre pour les Ukrainiens.
Oui. Et ça permet aussi de faire de revenir sur ce qu'on disait dans l'épisode 1, c'est-à-dire que les combats navals sont vraiment décisifs aussi dans ce sens-là.
Oui, exactement. Donc là, j'étais dans ma première phase, et en fait elle se finit par quoi la première phase ? Là encore, je vais utiliser un barbarisme anglais, le Mission Analysis Brief, donc le brief analyse de l'analyse de la mission. Là, vous allez voir votre chef et vous lui dites, OK chef, on a pris la mission, on l'a triturée, on a analysé l'environnement, on a analysé la menace. Voilà concrètement ce qu'on doit faire et comment on doit le faire et quelle est la mission qu'on doit achever face à tel ennemi. Voilà. Donc, et là, vous avez fini la phase 1. Une fois que vous avez fait ça, ça y est, vous allez commencer par pouvoir faire preuve de créativité et à vous dire, OK, maintenant, comment je vais faire le job.
C'est le quoi, finalement, c'est qu'est-ce que je mets en place.
Oui, exactement. Et donc là, vous avez en soute l'analyse de la mission, vous avez en soute vos forces à vous, qu'on vous a donné, que votre chef vous a donné, et là, c'est comment je vais échafauder une tactique pour pouvoir arriver à mes fins, c'est-à-dire produire les effets que je dois produire. Donc pour ça, vous avez, je vous l'ai dit, le résultat de l'analyse précédente, et puis vous avez les principes du combat naval, donc ceux qu'on développe dans notre chapitre 4 de notre ouvrage, qui doivent toujours être un guide, parce que quand vous allez commencer à établir les options, c'est bien d'être créatif, c'est bien d'avoir l'imagination au pouvoir, mais il y a un moment, il faut aussi que tout ça soit cohérent avec les principes de l'action de combat naval.
Il faut reprendre la méthode.
Il y a une méthode, et en fait, c'est parce que vous avez intériorisé les principes qu'après, naturellement, vous allez commencer à réfléchir, à proposer des options qui sont conformes aux grands critères qui font que vous gagnez en mer. Alors, là, vous allez avoir une phase de créativité. Chacun va mettre plein d'options sur la table et vous allez agencer tout ça. Quand cette maïeutique est terminée, globalement, l'idée, ça va être d'avoir un regard critique là-dessus, en vous disant, OK, finalement, mes options, est-ce qu'elles sont robustes d'un point de vue sûreté, d'un point de vue réversibilité, d'un point de vue économie des moyens, voilà, vous allez les passer au filtre des grands principes de la guerre. et vous allez les classer en plusieurs options types que vous allez ensuite passer à la moulinette de l'adversaire. Là, c'est ce qu'on appelle le wargaming. Donc là, c'est un des grands temps également de la construction des options. Vous allez vous organiser un peu comme vous voulez, en plusieurs groupes. Alors, tout dépend du temps que vous avez, évidemment, des structures qui sont à votre disposition. Mais là, globalement, ça va être de dire ce que j'ai pensé. Maintenant, si je le mets vis-à-vis de ce que l'ennemi est le plus susceptible de faire, ce qu'on appelle son mode d'action le plus dangereux ou au contraire son mode d'action le plus probable, finalement qu'est-ce que ça donne? Et là déjà, vous allez avoir un deuxième prisme d'analyse. Quand vous avez fait tout ça, globalement, vous pouvez aller à la dernière phase qui va être de décider.
Exactement, c'est la phase de la décision qui, c'est là où en fait on parle de nécessité d'isolement du chef, c'est-à-dire que le chef doit prendre, c'est la fameuse phase de prise de recul avant la décision.
Exactement. Les décisions, historiquement, elles sont toujours prises seules par des chefs. Je reprends les mots de l'amiral Trippier que vous avez cité en début. Globalement, quand il parle de ça, il dit que l'état-major, je cite, « personne nombreuse et irresponsable », a jusqu'ici fait preuve d'imagination. Et ensuite, on passe à la décision, et là, c'est le chef tactique, je cite, « personne unique et responsable, pour le coup », qui, lui, va faire œuvre de volonté et de décision. Et voilà, et donc parmi tous les chemins possibles, il va en choisir un. Et donc, ce chef-là, il faut lui apporter des choses au cours d'un briefing, qu'on appelle le DB, le « decision brief », qui peut prendre une forme également plus ou moins longue, plus ou moins formelle. Et là, globalement, on décide avec une option à laquelle on va se tenir. Une fois que cette option a été décidée, donc in situ personae, par le chef qui s'est fait son idée sur l'option, globalement, c'est parti, on va pouvoir rentrer en phase de production, c'est-à-dire que l'état-major va repartir avec la décision du chef et commencer à produire une intention développée du chef et toute une batterie d'ordres, voilà, qui vont ensuite irriguer les différentes unités de la force navale. En conclusion, je dirais que tout ça est plus ou moins long. Comme je vous l'ai dit, ça peut se faire en 3 jours, en 1 semaine, ou ça peut se faire en 3 heures sur un coin de table. Mais à chaque fois, la gymnastique intellectuelle, c'est la même.
Donc une fois qu'on a élaboré la tactique, justement, commandant, ensuite il faut passer par la mise en ordre, tout simplement. Comment se passe la conduite de l'action navale sur le terrain?
Alors là, c'est dans le grand bain. Ça y est, on a réfléchi, on a des ordres, et ensuite on y va. Ce qu'on peut déjà dire en liminaire, c'est que l'histoire de la guerre en général, et du combat naval en particulier, c'est celle invariablement d'un grand écart entre ce qu'on a prévu et ce qui se passe. Vous prenez n'importe quel plan de bataille fait par Nelson, fait par d'autres grands amiraux, ou fait par certains généraux, et la réalité, évidemment, il y a un grand écart. Alors tout ça, ça ne doit pas nous dire que la planification est inutile, au contraire, mais ça montre bien qu'il faut se préparer à être surpris. Donc, une fois qu'une force navale a ses ordres en main, globalement, plusieurs grandes phases qu'on détaille dans notre livre, que je ne vais pas tout détailler dans le détail, mais globalement, on peut retenir quelques grandes constantes. Donc, le premier point, c'est le fait d'aller sur la zone d'opération. Ça, c'est fondamental parce que la grande question du marin, c'est par où j'accède. Donc là, en utilisant le côté global de la mer, et d'une part, donc il va vous permettre de mobiliser des forces qui viennent d'un peu partout. Là, vous allez avoir l'enjeu logistique qui va rentrer en ligne de compte et qui est fondamental sur le plan tactique. Là encore, hein, on parlait des Malouines. Les Malouines, c'est un très bel exemple de comment je fais pour déployer une force navale à 8000 nautiques de mon port base. Et puis, cette phase de concentration, elle va s'accompagner d'une problématique de secret de sûreté. Même à l'heure de la transparence du champ de bataille, il y a encore beaucoup de choses que vous pouvez couvrir jusqu'au dernier moment quand vous vous concentrez. Voilà. Donc là, déjà, ça va mobiliser une grande partie de l'attention du chef tactique. Ensuite, le chef tactique, pour remplir sa mission, il va devoir donc déployer ses unités, les mettre en bon ordre pour accomplir sa mission. Là aussi, à l'ère du missile, de la robotique, les lignes sont un peu brouillées. Aujourd'hui, les dispositifs sont beaucoup plus souples, beaucoup moins lisibles par quelqu'un de l'extérieur. Et pour autant, il y a des grandes constantes, notamment le fait d'avoir des unités précieuses, le fait de devoir les protéger. Donc ça aussi, ça va demander beaucoup de ressources. Et ça va demander un gros travail dans cette phase-là d'éclairage, voilà, avant même que l'ennemi se manifeste. Et donc l'éclairage, c'est quelque chose qui va être très gourmand en moyens et qui va demander au chef toute une manœuvre, alors même que l'ennemi n'est pas encore là, de recherche. Et ça prend beaucoup de temps. Ensuite, quand l'ennemi va se matérialiser, soit parce qu'il vient à vous, soit parce que vous allez à lui, là, globalement, on rentre dans la zone où vous allez devoir encaisser la sidération. Et ça, il faut s'y préparer.
Il y a toujours un effet de sidération avant, lors de la rencontre de l'ennemi, c'est systématique.
Exactement, c'est-à-dire que vous avez beau avoir préparé autant que vous voulez, l'ennemi, en fait, et c'est le principe de réciprocité des actions, il ne fera jamais ce que vous avez exactement prévu, et donc ça, il faut pouvoir l'accepter. Un très bel exemple de sidération historique, hein, qui a été largement commenté, c'est Nagumo. Nagumo pendant Midway en 1942, qui reste isolé, prostré quasiment, pendant plusieurs heures, incapable de donner les ordres, parce qu'il y a un écart trop grand entre l'idée qu'il s'était fait de la bataille et la réalité. Au XXIe siècle, ça n'a pas changé. Et donc là, pour le tacticien, à ce moment-là, on recueille les fruits de non seulement la préparation, l'entraînement, mais aussi la planification avec tous ces canons conformes auxquels on va devoir faire face et donc qui vous donne une porte de sortie pour pouvoir réagir. Puis enfin, vous avez un dernier moment qui là est crucial, c'est le combat en lui-même, quand les coups vont commencer à partir. Donc là, vous rentrez dans le chaos. Et là, ce qui va vous permettre de prédominer, c'est pas du tout votre planification, c'est plutôt votre entraînement, votre conditionnement, votre doctrine, et surtout votre culture de la décentralisation au sein de la force, qui va permettre à chacun de réagir. Et là, dernier point essentiel qu'on peut rappeler également, c'est la capacité à ne pas perdre de vue la mission, puisque une fois que vous êtes dans le chaos du combat, c'est là que vous pouvez avoir ce qu'on appelle le mission creep, donc la mission qui glisse, parce que les circonstances, les contingences vous emmènent ailleurs. Et donc justement, c'est parce que vous avez la mission en tête que vous allez systématiquement revenir à quel effet je dois produire, qu'est-ce que mon chef attend de moi, et ça, c'est votre bouée de secours dans la bataille du combat.
D'où la phrase, la mission est sacrée. C'est ne pas perdre de vue le sacré pour essayer de limiter les pertes.
De limiter les pertes, ou au contraire, de rendre les pertes les plus utiles à la mission générale.
Et d'ailleurs, on en a parlé, mais on va essayer de... Une fois que le combat est déclenché, il y a deux éléments à prendre en compte un peu par défaut, à savoir la friction et le brouillard du combat. C'est quoi et comment est-ce que le tacticien doit les utiliser?
Alors, brouillard-friction, pour le coup, c'est absolument pas quelque chose de naval. Hein. C'est
oui.
Quelque chose.
C'est ça, c'est quelque chose de plus généraliste.
Exactement, chez Clausewitz, on pourrait dire que c'est les deux mamelles du combat. Alors, pour y voir plus clair, justement, le brouillard, qu'est-ce que ça caractérise? Ça caractérise l'incertitude dans laquelle vous êtes par rapport aux intentions et à la volonté de l'ennemi. Voilà. Vous êtes incapable de savoir exactement à l'avance comment l'ennemi va réagir, et donc le brouillard, globalement, c'est ça. Toutes les grandes batailles navales sont enrobées de brouillard, des espèces de pièces dans lesquelles les personnages parfois se croisent sans se voir et on ne sait pas trop ce que va faire l'autre ou l'autre. Vous prenez Jutland, vous prenez Midway, vous prenez les Philippines, vous prenez Leyte en 1944. À chaque fois, vous avez des volontés qui s'opposent et qui doivent composer avec des éléments parcellaires, voire contradictoires, sur l'ennemi à affronter. Donc c'est ça, voilà ce que c'est que le brouillard. Il y a des tentatives historiques récurrentes de vouloir lever le brouillard. Alors qu'ils partent d'un bon sentiment, c'est comment je minimise l'incertitude. Sauf que là où ça se passe moins bien, c'est quand on essaye d'absolutiser cette absence de brouillard. C'est arrivé régulièrement dans l'histoire, et c'est une tentation un peu prométhéenne dont il faut s'affranchir. Pourquoi? Parce que d'une part, il y a une nature humaine à la guerre qui fait qu'on ne pourra absolument pas lever le brouillard. Et d'autre part, vous avez la réciprocité des actions dont j'ai parlé qui fait que vous ne pouvez pas parfaitement maîtriser ce que va faire l'autre. Et donc, vous regardez l'Ukraine, vous regardez le Haut-Karabakh, vous regardez ce qui se passe aujourd'hui à Gaza. Le brouillard, il est très actuel au XXIe siècle. Pour le tacticien, là je réponds à votre question, comment on fait avec ça? On fait deux choses. La première, c'est qu'on accepte d'abord d'être surpris. Si vous n'avez pas intégré dans votre logiciel que de toute façon vous serez surpris, vous vous mettez en difficulté parce que vous prêtez le feu à la sidération. Donc c'est ça qu'il faut arriver à minimiser. Et deuxièmement, il faut également arriver à utiliser le brouillard à son profit en se disant de toute façon, il n'y a pas de transparence, l'ennemi ne saura pas exactement ce que je vais faire, donc où sont mes poches d'opacité et comment je les utilise. Voilà, donc c'est ça l'enjeu du brouillard. Vous avez ensuite la friction, qui est la deuxième face de la même pièce. La friction, là, c'est autre chose. C'est pas l'incertitude, c'est le fait que à la guerre, tout est compliqué. Je cite Clausewitz, dans la guerre, tout est très simple, mais la chose la plus simple est difficile. Les difficultés s'accumulent et entraînent une friction que personne ne se représente correctement s'il n'a pas vu lui-même la guerre. Voilà, Clausewitz a tout dit. Et en mer, c'est exactement la même chose. De manière plus vulgaire, en mer, les emmerdes, elles s'additionnent pas, elles se multiplient.
Ça, c'est une citation qui est bien connue des marins aussi.
Exactement. Et ça, vous l'avez pour le marin, le pêcheur, vous l'avez pour le plaisancier, et vous l'avez évidemment pour le guerrier. Et donc, les sources de la friction en mer, elles sont multiples. Une avarie, un défaut d'énergie, des subordonnés qui ne comprennent pas ou qui interprètent mal vos ordres, des signaux qui ne passent pas. Vous en avez des tonnes et des tonnes, des sources de friction possibles. Là, l'enjeu pour le tacticien, qu'est-ce que c'est? C'est de se préparer au mieux pour envisager tous les cas de friction. Ce ne sera jamais exhaustif, mais déjà quand vous y pensez, vous arrivez à minimiser leur impact parce que vous êtes préparé. L'enjeu, c'est de l'accepter. L'enjeu, c'est de ne jamais baisser les bras. Voilà. Donc, on y reviendra sur le leadership, j'imagine. Mais globalement, vous avez un vrai enjeu de ténacité en mer. Et puis, vous avez un dernier enjeu sur la friction, qui est d'avoir une organisation de commandement qui permette d'encaisser la friction. Voilà.
Et ça permet aussi de faire le lien avec le mission command. Le mission command qui est important dans le combat naval actuel. C'est-à-dire, le mission command, c'est quoi ? Mais de ce que j'ai cru comprendre, c'est que c'est du commandement par influence. En tout cas, c'est un type de commandement où on décentralise un peu.
Oui, ça, c'est la version courte, un peu slogan, et contre lequel on essaye de se positionner dans notre ouvrage, parce que le fait d'invoquer le mission command, en fait, quand on a fait ça, on n'a pas tout fait, voire on a travesti un peu le mission command. Le mission command, quand on reprend les termes utilisés par les Britanniques, qui sont un peu les référents dans la matière, vous avez 5 critères. Globalement, c'est un chef qui donne ses intentions de manière à ce que ses subordonnés comprennent ses intentions. Voilà, donc il y a l'enjeu de la compréhension. Deuxièmement, vous avez un chef qui indique clairement aux subordonnés quel est l'effet à obtenir et les raisons qu'il justifie. Donc, compréhensibilité des effets à obtenir. Troisième condition, c'est des subordonnés qui sont dotés des ressources suffisantes. Ça aussi, on l'oublie souvent. Parce que donner une intention à vos subordonnés, s'ils n'ont pas les moyens de le faire, en fait, ce n'est pas du mission command. Quatrième critère, c'est que le chef réduit au minimum les mesures de contrôle. Donc là, il y a un enjeu de confiance. Et puis, cinquième critère, c'est que les subordonnés décident d'eux-mêmes la meilleure manière de réaliser leur mission. Et là, c'est souvent à ce dernier critère-là qu'on réduit le mission command. En fait, le mission command, il suppose beaucoup de choses. Et notamment, il y a un premier présupposé qui est culturel. C'est-à-dire que le mission command va fonctionner dans une organisation si vous avez un formatage des esprits. Et il suffit pas d'être occidental, en fait, pour adopter le mission command. Vous prenez la Royal Navy, historiquement.
Mais pour qu'on reste un peu sur le sujet, qu'on perde pas aussi nos auditeurs, c'est-à-dire que le mission command, c'est très utile dans le combat actuel. C'est-à-dire que le combat naval actuel, il y a une nécessité un peu de résilience. Le mission command, ça permet aussi d'être beaucoup plus réactif face à ça, justement.
Oui, alors le mission command, justement, son intérêt majeur, c'est d'encaisser l'incertitude. Voilà, c'est que vous avez une situation de combat qui est naturellement chaotique, qui va faire que rien ne se passer comme exactement prévu, et donc l'avantage comparatif que vous avez avec le mission command, c'est d'être capable d'avoir des subordonnés qui vont réagir tout seuls et prendre les bonnes décisions. Donc ça, c'est très vrai, c'est pas valable d'ailleurs qu'en mer, c'est valable un peu partout. Ce qu'on essaie de pointer dans l'ouvrage, c'est que attention, ça ne s'acquiert pas directement, et notamment ça suppose de ne pas avoir d'aversion au risque, donc ça veut dire d'accepter le risque. Ça, c'est facile à dire mais difficile à faire. Ça suppose également de ne pas émettre des ordres trop précis ou inapplicables. Facile à dire, difficile à faire. Et ça suppose aussi d'accepter l'erreur. Pourquoi ? Parce que dans le mission command, vous avez ce qu'on appelle l'erreur active. L'erreur active, elle est préférable à l'inaction. Et donc, l'inaction, elle est vue comme un crime contre l'esprit, alors que l'erreur avec des conséquences est acceptée. Ça, c'est pareil, facile à dire, très difficile à faire. Voilà. Donc, en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'à la fin du mission command, on est d'accord, une fois qu'il est bien intégré, il permet d'avoir un avantage certain sur un ennemi qui, lui, sera plus centralisé. Il suffit d'observer pour ça ce qui se passe en Ukraine. Vous avez d'un côté une armée ukrainienne qui a à peu près, sous l'influence britannique, intégrer les canons du mission command face à une armée soviétique qui, elle, est beaucoup plus rigide, et donc ça s'est traduit par un avantage comparatif pour les Ukrainiens.
Et d'ailleurs, on va rentrer un peu dans la deuxième partie de cette interview, une partie consacrée au leadership tactique en mer. Une question un peu clé quand même à l'ère du cinquième âge du combat naval. Quelles sont les qualités et les écueils finalement de ce leadership en tactique en mer, et pourquoi est-ce que c'est aussi important actuellement ?
Alors, quand on touche à la patte humaine, là, déjà, je voudrais être très, très humble et ne surtout pas donner l'impression que je donne des leçons, parce que là, pour le coup, je me suis pas le plus légitime pour ça. Néanmoins, on peut pas faire l'économie d'un traité de tactique sans parler du leadership tactique. Pourquoi ? Parce que, premièrement, il y a deux fonctions au leadership tactique, c'est concevoir et conduire. Et ça, c'est des actes qui sont profondément humains, où le rôle du chef est central. On a beau avoir beaucoup d'avancées dans le cinquième âge du combat naval, notamment dans le command and control et dans la capacité à analyser l'information et à comprendre les situations, il y a quand même ces deux actes, conception et conduite, dans le combat, qui, à la fin, reposeront sur des hommes, plus particulièrement sur un homme qui est le chef, et lui a besoin de développer certaines qualités. Voilà, ça c'est en termes d'introduction.
C'est propre à la mission, de toute façon, il y a besoin d'un chef pour commander.
Oui, exactement. Votre question est très bonne, parce qu'elle nous amène, en réalité, sur l'importance du facteur humain et la centralité de l'homme au combat au XXIe siècle, donc au cinquième âge du combat naval. C'est-à-dire que vous avez une course technologique, c'est vrai, vous avez des avantages comparatifs à chercher évidemment dans le fait d'être au top de technologie. Pour autant, ces avantages-là, ils vont s'annuler systématiquement. Regardez ce qui se passe en Ukraine, tout s'annule. Ce qui fait que les gisements d'efficacité, ils sont plutôt dans les domaines moraux et cognitifs. Et c'est là que le leadership tactique rentre en jeu. Alors pourquoi est-ce que l'homme est central au combat ? Il y a plein de raisons, j'en retiens trois. La première, c'est que l'homme, c'est le seul à pouvoir tirer parti de la complexité. Voilà. Le cerveau humain, c'est le lieu de l'intuition et de la détermination, et notamment le cerveau du chef. Deuxième raison, c'est que l'homme est un vecteur de simplicité et d'adaptabilité. Donc pour vous adapter face à la sidération, en fait ça, c'est une affaire d'homme, c'est une affaire de chef. La troisième raison, c'est que l'homme apporte des connaissances ouvertes et diversifiées, qui sont une condition de la créativité. Donc dans un environnement où la technologie change très rapidement, pour en tirer parti, il faut l'intelligence tactique humaine, qui est celle du chef, qui va venir magnifier tout ça. Voilà. Ce qui fait que, quand on a dit tout ça, il ne faudrait pas non plus croire que l'homme est la réponse à tout et devrait se dispenser de penser sa complémentarité avec la machine. C'est aussi l'objet de notre livre, c'est de trouver la bonne complémentarité. Et je pense que le mot complémentarité est bon, c'est-à-dire qu'il faut laisser à chacun ses domaines d'excellence. Aux hommes, la perception des comportements, la flexibilité dans les options, voilà, la pensée inductive. Aux machines, le contrôle, les tâches répétitives d'analyse, avec des multiples entrées, le raisonnement déductif. Voilà, donc tout ça est bien réparti. Et surtout, accepter que l'intelligence artificielle, qui est une des manifestations de la machine aujourd'hui, ne combatte pas comme les humains, mais différemment. Voilà. Donc c'est là-dessus, et là je m'éloigne un peu de la question, et on pourra y revenir s'il le faut, mais qu'il y a une vraie réflexion. Donc on s'est ramassé sur trois qualités, qui sont celles, selon nous, du chef tactique naval. La première, c'est l'audace. Et là, ça revient à ce que je disais avant sur l'actualité des mots du chef d'état-major de la marine, hein, qui encourage ses chefs à être audacieux. Pourquoi ? Parce que l'audace, elle va permettre de prendre l'ascendant assez rapidement. Quand vous regardez les combats navals où vous avez eu quelqu'un qui a marqué des points tactiquement de manière décisive, c'est parce qu'il y a eu de l'audace. C'est Suffren à la Praia, à la fin du XVIIIe siècle.
C'est Béranger potentiellement ?
C'est Béranger d'une certaine manière, mais c'est pas forcément caractéristique. C'est Prienne, dans l'affaire de la rade de Scapaflot, voilà, c'est ce genre de choses. Ça permet de renforcer, de renverser un rapport de force défavorable. Et là encore, ça demande pas de moyens, c'est uniquement de l'audace. Ça permet aussi de gérer la prise de risque intelligemment. Voilà. Donc si vous manquez d'audace et si vous êtes tétanisé, vous allez peut-être refuser de prendre des risques que d'autres vont prendre, et donc vous perdez les options. Et souvent, l'audace aussi permet de transgresser les règles. Alors attention dans ce que je dis, évidemment, la doctrine, pour moi, est fondamentale. Et c'est ce qu'on dit dans notre chapitre 7, c'est que c'est vraiment le cœur de ce qui va vous permettre de réagir dans le chaos. Maintenant, transgresser les règles, ça doit être aussi dans les gènes du chef tactique audacieux. C'est le cas de Nelson au Cap Saint-Vincent en 1797, c'est encore le cas de Nelson à Copenhague en 1801, et c'est aussi, je reviens sur mon Nagumo, à Pearl Harbor, qui aurait sans doute dû transgresser les ordres et lancer une troisième vague d'attaque sur Pearl Harbor et aurait obtenu des résultats décisifs contre la flotte américaine qui aurait peut-être pu éviter Midway quelques mois après. Donc voilà, ça c'est l'audace. Deuxième caractéristique du chef tactique, quand on a réfléchi avec mon co-auteur, on s'est dit, mais finalement la ténacité ressort beaucoup. La ténacité, c'est un peu ce que disait un grand auteur naval français d'Avelui, je cite, c'est le plus têtu qui gagne. Et c'est souvent le cas en mer. Pourquoi ? Parce que les combats sont assez courts, sont assez ramassés, se jouent sur l'attrition. Il n'y a jamais vraiment de guerre d'usure qui va s'enclencher, ni de guerre de position. Vous ne pouvez pas vous dire que de toute façon, vous avez la profondeur défensive derrière pour rétablir la situation. Il faut être têtu, obstiné, dans le bon sens du terme, tout de suite. Et ce qui va vous permettre de faire pencher cette fameuse balance du bon côté. Donc ça suppose une grande volonté qui doit être cultivée dès le temps de paix. C'était vraiment un rempart, c'est ce qu'on a dit dans notre ouvrage, un rempart contre l'abandon. Et donc cette culture de la ténacité, elle doit se faire à tous les niveaux. Et quand vous lisez des récits de combat naval, par exemple, ce qu'on a mis dans notre ouvrage sur l'exemple du croiseur britannique Exeter face au Grafsby en 1939, vous avez un exemple de ténacité du matelot au commandant qui permet à l'Exeter en fait de s'imposer. Dernière facette de ce triptyque des qualités du chef tactique, c'est la capacité d'entraînement. L'entraînement, c'est-à-dire d'entraîner son équipage pour le commandant, mais également d'entraîner sa force navale pour le chef tactique. Voilà. Et cette capacité d'entraînement, en fait, c'est elle qui va vous rajouter cette espèce de surplus dans la conduite qui va permettre là aussi de faire pencher la balance. Voilà. Donc ces trois caractéristiques, audace, ténacité, capacité d'entraînement, sont pour nous, non pas la recette miracle, j'aime pas ce mot, mais en tout cas les trois facettes à cultiver pour un chef tactique.
C'est ça, et qui seront, et on va terminer sur ça, qui seront aussi des facteurs de supériorité pour vaincre en mer au XXIe siècle en réalité.
Exactement, et donc si vous me posez là la question fatidique de...
Comment vaincre en mer au XXIe siècle, je suis obligé de vous poser la question, elle est
bien sûr, et ça me paraît une bonne question finale. Alors là, je vais commencer par dire que évidemment la recette n'est pas dans la technologie. La technologie est évidemment partie de la solution. Il est nécessaire d'être toujours à la pointe et de voir ce que font nos compétiteurs et d'essayer de les coiffer au poteau dans ce domaine-là. Mais ça n'est pas le gisement majeur de supériorité. Les gisements, ils sont plutôt organisationnels et humains. Quelques pistes, comme ça, à la volée pour nos auditeurs. Donc déjà, la première des pistes, c'est de comprendre et de maîtriser les constantes du combat naval. Donc là, j'en fais appel à la culture historique des chefs. C'est essentiel. Or, ces cultures historiques, dans la marine nationale, dans les armées un peu technologiques, souvent, on la perd de vue. C'est pas nouveau, mais il faut en être convaincu. Deuxième point, c'est d'arriver à comprendre le brouillard dont on a parlé, pour se dire, non pas comment est-ce que je le traverse, mais comment j'en tire parti, moi, pour du coup faire changer la peur de camp, faire changer l'incertitude de camp. Autre piste également, c'est de mieux penser nos équilibres entre centralisation et décentralisation. On sort de décennies de calme relatif en termes de conflictualité, ce qui a fait que nos organisations globalement sont assez centralisées. Je pense que dans certains domaines, pour encaisser le choc du combat de main, il faut arriver à remettre de la décentralisation bien dosée, mais à la remettre avec le bon côté des choses, donc le bon côté de ce qu'on a vu ensemble, le Mission Command. Avant-dernière piste, je pense qu'il y a aussi tout l'enjeu de la résilience. Nous sommes sur des armées qui ont perdu en épaisseur, à la fois en nombre, à la fois en capacité à encaisser les coups.
Oui, mais c'est un peu à relativiser parce que ce qu'on a perdu en termes d'équipage à bord, on l'a gagné en termes d'équipage à terre potentiellement.
Oui, ça c'est vrai, mais je faisais plutôt allusion donc au format de nos forces navales qui fait qu'on a beaucoup renié voilà, sur nos stocks, sur le nombre de bateaux qu'on a, sur notre capacité aussi à encaisser des coups. Là, je pense que pour vaincre en mer au XXIe siècle, on a tout un enjeu de résilience à la fois avant de prendre les coups dans nos structures et puis en même temps de résilience à bord dans nos équipages sur comment je continue à opérer, même après avoir pris un coup. Et donc ça m'emmène sur mon dernier point. Là aussi, je ne voudrais pas être dans le slogan, mais je crois beaucoup à la notion de force morale hein, qu'on développe dans notre ouvrage, et notamment cette force morale qui s'alimente de plusieurs carburants. Et il y en a deux qui sont fondamentaux. Le premier, c'est la confiance dans nos systèmes. Voilà, donc ça, on a la chance en France d'avoir une marine de pointe, d'avoir des systèmes d'armes offensifs et défensifs qui fonctionnent très bien. Et donc ça joue directement sur la confiance des équipages. Et quand on va au combat, il faut être sûr de pouvoir compter sur son équipe, sur son matériel. Ça, c'est vrai depuis Nelson. Deuxième carburant des forces morales, c'est le fait de s'inscrire dans une continuité historique de gagnant. Et je conclurai par ça. Le chef d'état-major de la marine précédent a instauré Chesapeake, la victoire navale française en 1781, comme étant la journée annuelle de la marine française autour d'une grande victoire. Et ça nous permet, ça aussi, d'alimenter le carburant des forces morales en ayant le sentiment de nous inclure dans une lignée de marins qui ont gagné hier et qui gagneront demain.
Commandant, c'est le mot de la fin. Merci pour ces trois podcasts. Je rappelle que vous êtes commandant en second du porte-avions Charles de Gaulle et co-auteur justement du livre « Vaincre en mer au XXIe siècle, la tactique au cinquième âge du combat naval ». Vraiment, je vous incite à aller le lire et à aller le feuilleter. C'est super intéressant. Chers auditeurs, d'ailleurs, si cette série vous a plu, n'hésitez pas à parler du podcast autour de vous et à le partager sur vos réseaux sociaux. De mon côté, les podcasts continuent à sortir. Je vous donne rendez-vous donc jeudi dans 2 semaines pour un nouvel épisode d'Echo, un podcast du Centre d'études stratégiques de la Marine.